Elle est allée au bureau pour faire le journal. Clara Lecoq-Réal, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un congé paternité plus long et en partie obligatoire dès le mois de juillet prochain. Ce grand changement en matière de politique familiale doit être détaillé aujourd'hui par le président de la République. Nous vous l'expliquons dans un instant et vous comprendrez comment l'exécutif allume grâce à cela un contre-feu.
Près d'une centaine de médias français publient une lettre ouverte ce matin. Ils appellent les Français à se mobiliser en faveur de la liberté d'expression en soutien à Charlie Hebdo, qui fait l'objet de nouvelles menaces.
Des menaces en plein procès sur les attentats de janvier 2015. Hier, les proches et les victimes de l'hypercachère ont témoigné, compte rendu poignant à suivre. Dans ce journal, nous ferons le point également sur la situation des migrants à Lesbos en Grèce, 2 semaines après l'incendie de leur camp d'accueil. Bruxelles doit présenter sa réforme de la politique migratoire aujourd'hui.
Et puis nous irons aux États-Unis où un nom circule pour remplacer la juge progressiste de la Cour suprême décédée vendredi. Ce pourrait être une femme, mais conservatrice.
L'Italie réduit le nombre de ses parlementaires. Dans le billet politique, après cette édition, Frédéric Seyss se demandera pourquoi ce n'est plus d'actualité en France. Les pères de famille pourront bientôt passer jusqu'à un mois à pouponner avec l'aval de leur employeur et de la sécurité sociale. Le congé paternité va passer de 14 à 28 jours en France. L'Élysée l'annonçait hier soir et c'est Emmanuel Macron en personne qui en donnera les détails dans la journée. Le président a prévu un déplacement sur le thème de la petite enfance aujourd'hui dans une antenne de la protection maternelle et infantile de l'Essonne à Longjumeau. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Un rapport mené par le pédopsychiatre Boris Cyrulnik proposait un congé de 9 semaines. Ce sera finalement 4 semaines au lieu de 2 actuellement. Et une partie sera obligatoire, Antoine.
Et cette part obligatoire doit encore être fixée avec les partenaires sociaux. Les entreprises ne respectant pas cette obligation s'exposeraient à une amende de 7 500 euros. L'objectif, c'est d'inciter davantage de pères à profiter de ce congé de paternité. Actuellement, seuls 67% d'entre eux y ont recours. Et derrière ce chiffre, il y a beaucoup d'inégalités entre les CDI qui l'utilisent massivement et les précaires sous-représentés. Il y a donc un double enjeu, justice sociale et égalité. Justice sociale en faveur des plus précaires et égalité hommes-femmes, car la charge parentale repose encore beaucoup sur les mères. L'idée, c'est donc de faire converger les congés des deux parents, mais on en est encore loin en France, puisque le congé de maternité peut aller jusqu'à 16 semaines.
Voilà pour le fond et sur ces 28 jours prévus pour les pères de famille. Sur la forme maintenant, Antoine, on peut avoir l'impression qu'Emmanuel Macron s'empare d'un sujet de société pour faire oublier les difficultés du moment.
Il s'empare de ce sujet, vous avez raison, c'est lui qui va faire l'annonce et non pas le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Il veut faire cette réforme sociétale une réforme importante de son quinquennat. Pourquoi ? Eh bien peut-être effectivement parce qu'il traverse des difficultés. Difficultés économiques, sanitaires, difficultés politiques aussi avec les prochaines régionales qui s'annoncent compliquées pour La République En Marche qui devrait pâtir, comme au municipal, de son absence d'implantation locale. C'est donc le moment tout trouvé pour dégainer une réforme consensuelle. 80% des Français sont pour. Cela plaît aux féministes comme aux associations familiales. Le symbole est fort, avec un coût raisonnable. Le dispositif figurera dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, qui doit être présenté prochainement en Conseil des ministres. Il devrait entrer en vigueur au 1er juillet prochain. La France passera ainsi d'une position médiane en Europe au peloton des pays de tête avec l'Espagne, la Suède, la Norvège ou encore le Portugal.
Merci beaucoup Antoine Marette du service politique de France Culture. Ensemble, défendons la liberté. Des dizaines de journaux et de médias audiovisuels publient ce matin une lettre ouverte pour la liberté d'expression. Un texte inédit dans son ampleur et sa solennité qui est adressé au public, aux citoyens français. Radio France fait partie de ses signataires quelques jours après de nouvelles menaces terroristes sur Charlie Hebdo et en plein procès des attentats de janvier 2015. Vous pouvez retrouver cette lettre ouverte et ses explications sur notre site internet franceculture.fr. Le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit donc. Hier, des survivants et des familles de victimes de l'hypercachère porte de Vincennes à Paris ont témoigné. À la barre notamment, Zari Siboni, la jeune caissière qui aura été l'interlocutrice principale du terroriste. Compte rendu de cette audience avec Florence Turme. Elle revoit le sac qu'Amédi Coulibaly ouvre devant elle, les couteaux, les pistolets, les munitions, les grenades, et cette pièce confinée avec les corps, le sang, une odeur terrible, l'impression d'être sur une scène de guerre. Zahri Siboni, 28 ans aujourd'hui, est venue d'Israël pour témoigner de ces 4 heures d'angoisse et d'horreur, 4 heures pendant lesquelles j'étais sûre de mourir. Je priais juste pour que ce soit d'une balle dans la tête, témoigne l'ancienne caissière de l'hypercacher, très droite face à la cour. Puis, le rideau de fer s'est ouvert très lentement, j'ai vu les lasers rouges, entendu une trentaine de détonations, un des otages qui disait « c'est bon, c'est fini, ils l'ont tué ». Ces 4 personnes qui sont parties ce jour-là, dit-elle, pour moi, ce sont des héros. Un héros, c'est bien ainsi que Batou Attab voit son fils Yoav, dont le sourire remplit tout à coup la salle, la photo projetée sur grand écran. Lui qui a tenté de désarmer Amédi Coulibaly et que le terroriste a abattu d'une balle en pleine tête. « Oui, je suis fier de lui », déclare le rabbin, costume noir et kippa, longue barbe grise qui dépasse de son masque. Il est directeur de l'école juive de Tunis et toute la communauté musulmane a pleuré avec moi. Ce sont mes frères, plus que des frères, ajoute-t-il avec cette question lancinante, pourquoi la haine, je ne supporte pas. Et il poursuit sans un regard pour les accusés, figés dans leur box, les gens qui ont donné des armes, ce sont eux qui ont tué mon fils. Je demande la justice. Ils m'ont déchiré, je veux qu'ils prennent ce qu'ils méritent.
Florence Turm, dont vous pouvez retrouver les chroniques de ce procès sur le site de France Culture, elles sont mises en ligne tous les jours par Éric Chavroux.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coq-Réal. La Commission européenne présente aujourd'hui son nouveau pacte pour l'asile et la migration.
Oui, un exposé qui a été avancé car il y a urgence après l'incendie spectaculaire du camp de migrants à Lesbos en Grèce. C'était il y a 2 semaines. Depuis, 400 mineurs isolés ont été transférés sur le continent. Qu'en est-il pour les milliers d'autres, Marie-Pierre Véraud ?
Plus personne n'est à la rue. Les familles qui dormaient sur un bout de carton, sur le bitume, dans la poussière des champs ou sur un parking de supermarché, ces enfants qui erraient le long des routes, ces milliers de réfugiés ont finalement gagné le camp de tente érigé à la hâte dans un ancien champ de tir. Les personnes vulnérables ont-elles trouvé place dans des hébergements spécifiques ? Les images de détresse ont donc disparu des rues de Lille. Mais s'il n'est pas surpeuplé, ce nouveau camp est plus que sommaire. Stéphane Obereit, chef de mission de Médecins sans frontières.
C'est très rustique, hein. C'est des tentes plantées à même le sol, donc ils sont vraiment sur les cailloux. On est encore en grand manque de toilettes. Les gens se lavent dans la mer, dans l'eau salée. Bien sûr, maintenant, la peur de l'hiver, parce que c'est complètement ouvert au vent dominant, au bord de la mer, un des endroits les plus exposés aux intempéries sur Lesbos. Donc à nouveau, pour nous, ça doit rester un camp temporaire. Il faut aussi revoir la nature de ce camp. Ça devrait être un camp de réception et de transit, et non pas un camp où les gens vont rester des mois, voire des années, comme ça a été le cas pour Moria.
Et d'en appeler à une prise de conscience européenne pour tirer les leçons du passé, répartir au plus vite en Europe les demandeurs d'asile. Mais l'urgence à Lesbos n'est pas forcément perçue à Bruxelles.
Un compromis risque en effet d'être difficile à trouver aujourd'hui à Bruxelles. Dès hier soir, le chancelier autrichien Sébastien Kurz a estimé que la répartition des demandeurs d'asile en Europe ne marchera pas. Donald Trump présentera dès samedi après-midi une candidate pour succéder à la Cour suprême à la progressiste Ruth Bader Ginsburg, poste stratégique au sein de ce tribunal de dernier ressort aux États-Unis. Le choix devra ensuite être validé par le Sénat américain, qui est à majorité républicaine, du camp du président donc. Et pour le moment, c'est une femme de 48 ans, conservatrice, qui fait figure de favorite Gregory Phillips.
Lundi après-midi, elle a été reçue par Donald Trump à la Maison-Blanche, ce qui fait dire à de nombreux observateurs que c'est elle, Amy Coney Barrett, qui est la mieux placée dans cette course à la succession de Ruth Bader Ginsburg. Coney Barrett est jeune, 48 ans, mère de 7 enfants, catholique fervente, professeure de droit et juge fédéral à Chicago depuis 3 ans. Elle est connue pour ses valeurs religieuses traditionnalistes, même si elle assure faire la différence entre sa foi et sa responsabilité de magistrate. Elle a le soutien notamment des élus les plus conservateurs et des groupes anti-avortement, même si elle évite de se prononcer sur l'arrêt Roe versus Wade qui, en 1973, avait légalisé aux États-Unis l'interruption volontaire de grossesse. Coney Barrett s'est aussi déclarée à plusieurs reprises favorable à l'invalidation totale du système Obamacare. Si Trump retient son nom et si sa nomination est validée par le Sénat, alors Amy Coney Barrett serait la seule femme conservatrice de ce groupe de 9 magistrats, mais avec elle, la Cour suprême pencherait à droite. avec 6 magistrats conservateurs contre seulement 3 progressistes.
Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Washington où cette nomination à la Cour suprême a bouleversé la campagne présidentielle. Elle était jusqu'ici dominée par la pandémie de Covid-19 qui a fait, je vous le rappelle, plus de 200 000 morts aux États-Unis.
La suite du journal de nouvelles, restrictions pourraient être annoncées pour la ville de Paris.
Oui, aujourd'hui ou demain, à l'occasion d'un conseil de défense sur le Covid-19, la capitale devrait se caler sur les mêmes mesures qu'à Marseille, Nice, Bordeaux ou Lyon. Notez justement qu'à Lyon, le plan blanc est déclenché pour les 13 établissements des hospices civils de l'agglomération. L'Agence régionale de santé demande aux établissements publics et privés de Lyon, aux hôpitaux, de faire pareil, car un quart des lits de réanimation y sont déjà occupés par des patients de Covid-19. Sur le plan national par ailleurs, notez que le taux de tests positifs continue de grimper. Il dépasse maintenant les 6%. Le ministre de la Santé prendra la parole ce soir à 19h. Olivier Véran, qui a commandé 30% de doses supplémentaires de vaccins contre la grippe saisonnière. L'idée est justement d'éviter une saturation dans les hôpitaux cet hiver. C'est un autre corps de métier débordé par la crise sanitaire, les directeurs d'école. Le travail était déjà très important avant le Covid-19 dans les écoles. Le suicide de la directrice Christine Renaud en Seine-Saint-Denis à Pantin il y a un an tout juste le prouvait. Mais depuis, la pression hiérarchique ne s'est pas arrêtée. Bien au contraire, disent les syndicats. Marie-Hélène Plard témoigne. Elle est directrice de maternelle à Saint-Denis, co-secrétaire du SNUIPP 93. Et elle n'a pas le temps, dit-elle, de s'occuper correctement de ses élèves.
On voit bien que les familles et les enfants que j'accueille, c'est des populations parfois fragiles qui auraient besoin justement d'un service public fort, d'une école qui a les reins solides justement pour les soutenir et les tirer vers le haut. Et là, l'école, elle est tellement mise à mal qu'on répond pas aux besoins de ces populations. Ça me met à mal professionnellement. Si vous voulez, le fait qu'on ne prenne pas le temps de tirer un bilan clair, mais par rapport aux enfants et aux familles de ce vécu que je rappelle inédit, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'école que les écoles ferment sur une durée aussi longue. C'est pas tant les apprentissages qui m'inquiètent. Voilà. Par contre, je vois bien que j'ai des enfants, là, que j'accueille donc de 3 à 5 ans, qui ont du mal à se poser, qui ont du mal à se concentrer. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être indépendant, j'en sais rien, mais en équipe, on a besoin d'observer, de réfléchir à ça et pas de répondre à des questionnaires à la noix pour savoir si les enfants sont ennuyés ou pas pendant le confinement. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Moi, j'en peux plus des enquêtes statistiques. Je veux qu'à un moment qu'on remette vraiment les enfants au cœur du système scolaire.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. Les syndicats de Suez demandent à la justice de suspendre le projet de rachat par Veolia. Ils viennent de la signer en référé, demandant d'être mieux informés et consultés sur la proposition de rachat. Un dossier qui sera d'ailleurs examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La commission des finances attend des clarifications sur la stratégie des deux groupes. D'un côté, Veolia, qui pense qu'il faut créer un champion mondial du traitement de l'eau et des déchets, et de l'autre, Suez, qui souhaite rester indépendant. Une bataille de l'eau qui inquiète et qui concerne les collectivités locales, car elles font très souvent appel à ces deux entreprises, Anne-Laure Jumet.
À eux deux, Veolia et Suez assurent 60% de la distribution d'eau potable en France. Deux mastodontes qui ont une longue histoire. Veolia est issue de la Générale des Eaux, créée en 1853. Suez, de la Lyonnaise des Eaux, née en 1880. Des concurrents qui se battent à chaque renouvellement de contrat. En montant son projet de rachat de Suez, Veolia dit avoir compris qu'il ne pouvait garder l'activité eau de Suez en France. La concentration aurait été trop forte, l'autorité de la concurrence n'aurait pas laissé passer. Le groupe d'Antoine Frérot a donc déjà prévu une solution, vendre cette activité au fonds Meridiam. Inconnue du grand public, cette société, fondée par le français Thierry Deshaux, investit de manière durable dans des infrastructures en France et dans le monde, aéroports, rails, mais elle est encore toute neuve dans le secteur de l'eau. C'est l'offre qui apporte les meilleures garanties en termes d'emploi, indique Veolia. Chez Meridiam, on explique en effet que tous les postes seront préservés et que 1000 apprentis seront même recrutés. Le groupe prévoit par ailleurs de garder le nom de Suez et d'investir 800 millions d'euros dans cette activité eau en France. Mais les syndicats de Suez restent inquiets face aux intentions de ce fonds, préférant être adossés à un grand groupe que de partir vers l'inconnu.
Et la question de l'emploi chez Suez sera évidemment abordée ce matin en commission des finances. Mais pas seulement, c'est ce qu'indique son président, le député Éric Woerth. Il l'a glissé hier à Stéphane Robert.
Je pense que dans les explications, il y aura des garanties. Garanties sur l'emploi, garanties sur les prix, notamment en France. Mais la question n'est pas uniquement franco-française. C'est surtout de savoir si, lorsque une société française concourt à la gestion de l'eau dans une grande collectivité chinoise ou indienne ou asiatique, comme ce sera le cas et comme c'est déjà le cas, est-ce qu'on est plus fort à deux parce qu'on a multiplié les chances, ou est-ce qu'on est plus fort tout seul parce qu'à ce moment-là, on a une puissance plus importante? Et c'est ces questions qui sont posées aujourd'hui. Il faut que les dirigeants puissent en parler publiquement, ce qui n'a jamais été fait.
C'était le député Éric Woerth, président de la Commission des Finances à l'Assemblée. L'enquête sur d'éventuelles fausses procurations à Marseille avance. 9 personnes en tout cas ont été placées en garde à vue hier. Les soupçons portent sur l'entre-deux-tours des élections municipales. Parmi les interpellés se trouve Yves Morène, ancien maire Les Républicains des 6e et 8e arrondissements de Marseille entre 2014 et 2020. Le temps de ce mercredi en France métropolitaine, il sera plus sec dans le sud-est, mais pluvieux sur le nord-ouest. Ce matin, comptez 13 à 19 degrés du nord au sud.
Merci Clara Lecoq-Réal.